You rock. Classique 21. Nobody knows. Laurent Riepi.
Et on part en Géorgie.
On part en Géorgie, il parlait d'un ancien étudiant en Nahor qui avait l'habitude de déambuler dans les rues étouffantes, en plein été, vêtu d'un long trench coat boutonné jusqu'en haut et qui transporte ses pinceaux dans une boîte à tartines à l'effigie de la série The Munster. Ça fait beaucoup de choses, hein.
Oui, l'état de Géorgie et l'aspect extravagant me font penser à un certain Michael Stipe de R.E.M.
Exactement, Pierre, vous avez bien deviné. Et aujourd'hui, on va oublier l'icône sérieuse et engagée pour découvrir finalement le Michael Stipe que personne ne connaît, un punk excentrique qui testait les limites de la patience des habitants d'Athènes, donc là où il a grandi, une ville universitaire donc dans l'état de Géorgie au tournant des années 80.
Et on est loin du poète intellectuel qu'on imagine derrière ces textes cryptiques.
Ah ça, on est même très loin. À l'époque, Michael Stipe est un étudiant donc en art qui transforme chaque seconde de sa vie en une forme de performance. Prenez sa rencontre avec celui qui va être son fidèle allié, Peter Buck, le guitariste de R.E.M. Peter, à ce moment-là, bosse au magasin de disques Wextree et il voit débarquer un type avec une coupe de cheveux asymétrique, totalement improbable, des lunettes de soleil noir opaques et ce fameux trench coat qu'il porte même alors qu'il fait, accrochez-vous bien, 35 degrés à l'ombre.
Il ne cherchait pas vraiment à passer inaperçu.
C'est le moins qu'on puisse dire, il voulait qu'on le regarde sans qu'on puisse finalement en saisir toutes les nuances. Peter Buck racontera d'ailleurs plus tard qu'il surnommait son futur chanteur, accrochez-vous bien, donc Michael Stipe, son surnom, en tout cas pour Buck, c'était le gars aux fringues bizarres.
Ouais.
Tout un programme. Donc chez Disquaire, donc Stipe achetait alors les disques les plus pointus de la scène new-yorkaise, sans dire un seul mot, finalement comme si on a l'impression qu'il protégeait un véritable secret d'État.
C'était donc déjà un personnage très visuel.
Absolument, et il poussait le bouchon très loin, et ce, même au sein de sa propre famille. Il y a une scène incroyable, imaginez-vous, on est chez Michael Stipe et un soir, Michael s'apprête à sortir pour aller voir le fameux Rocky Horror Picture Show, il y a le film, la comédie musicale, il descend l'escalier familial et voilà, on pourrait s'imaginer qu'il est en jeans et t-shirt, et pas du tout, il est en porte-jartel, bustier rouge, maquillage outrancier, comme les personnages d'ailleurs de ce film et de cette comédie musicale absolument culte.
Et comment réagit sa famille, Laurent? On est dans le sud des États-Unis quand même, hein.
Ben oui, c'est là que c'est une histoire un peu géniale, puisque son père, qui est du genre sérieux, c'est un lieutenant-colonel de l'armée, vétéran du Vietnam assez rigoureux, et à ce moment-là, il voit son fils accoutré comme ça, il lève les yeux de son journal, regarde son fils en parésie, et lui demande simplement « Tu ne vas quand même pas sortir comme ça, fiston ?» Et Michael lui répond doucement « Si ». Le colonel se contente de hausser les épaules en disant « Bah alors, passe une bonne soirée.
» On sent que la flegme était une affaire de famille. Mais musicalement, il était déjà ce chanteur qui murmure.
Et pas encore, en fait. Avant de devenir cette voix éthérée, il était connu pour ses danses convulsives. Lors de concerts de groupe local qui s'appelle Pylon, Michael se jetait dans la foule et se mettait à trembler, à se désarticuler, comme s'il faisait une sorte de crise d'épilepsie. Les gens s'écartaient par peur qu'il ne se blesse. C'était sa manière à lui d'évacuer une timidité maladive par une sorte d'explosion physique totale et absolument pas contrôlée.
C'est fascinant de voir que tout ce mystère autour de lui a été construit consciemment, pièce par pièce.
Exactement, même son fameux marmonnement sur le premier album Murmure était un choix artistique. En studio, il éteignait toutes les lumières, tournait le dos aux musiciens et chantait parfois des articles de journaux ou des recettes de cuisine. C'est quand même pas mal.
Ouais.
Parce qu'en fait, il aimait simplement la sonorité des mots, sans soucier finalement de ce qu'il était en train de raconter, et surtout du sens de ces mots.
Et avant de se quitter, Laurent, une petite question. Le nom du groupe R.E.M., ça vient d'où, juste?
Alors là, c'est une histoire typique de cette époque. Il cherchait donc les membres du groupe, un nom, et quelqu'un, en l'occurrence Michael Stipe, a ouvert un dictionnaire au hasard. Ils sont alors tombés sur R.E.M. pour Rapid Eye Movement, donc le sommeil paradoxal. Et c'est ce moment de la nuit où vos yeux bougent frénétiquement sous vos paupières qui sont fermées et où vous rêvez sans aucun autre contrôle. Voilà, c'est ce moment-là, quoi.
Oui, un choix complètement aléatoire.
Sur le moment, oui, mais avec le recul, c'est devenu incroyablement prophétique, parce que c'est exactement ce que faisait Stipe. Il se mettait en état de transe créative, laissait son inconscient prendre le dessus sur son conscient. conscience, sur scène, avec ses convulsions, en studio avec ses yeux fermés dans le noir, il était littéralement en mode R.E.M. Et finalement, entre veille et sommeil, entre sens et pure émotion.
Le hasard fait parfois bien les choses. Classique 21,
Nobody Knows. Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.